On entendait une rumeur au fond de la salle, les vies sont pas décidées. Vous ne vous rappelez pas de ce temps-là, hein? Mais le certain en douze. Alors les Juifs en Palestine. On arrive en Palestine, on dit, ah, c'est pas celui. Le mot de Plishtim, Plachet, ça veut dire les conquérants. Plicha, en hébreu, ça veut dire un commando de conquête. Regardez l'humour du langage. Madame Arado, Olivier Valenci a mis ça en évidence. Les Palestiniens ont pris le nom qui dévoile la vérité de ce problème, le nom des Plishtim. Alors les Plishtim, c'était des Ariens qui venaient de la Crète. Et des travaux contemporains ont montré qu'ils sont très très liés au rameau scandinave de la race arienne, les Plishtim, ce qu'on appelle les Palestiniens, les Scandinaves. Alors, je ne sais pas ce que Bernadotte allait faire là-bas. Vous avez été, probablement. Bien, alors revenons quand même à notre... Bien, c'est dans la Kabbalah qu'on étudie vraiment l'identité Knaam, qui est le nom de la Sphira Malchut, lorsqu'elle est tombée du côté du mal. Et qu'il faut la subjuguer, qu'il faut la continuer. Et comment était la gamatria de Knaam?
190.
Hein?
190.
190. Non?
Calculez,
je m'en
rappelle.
Je ne sais pas comment vous dire. Je vais vous dire autrement, de façon un peu scandaleuse, disons, tout près. Et qu'est-ce que c'est Israël si ce n'est pas un clan devenu Israël? Vous avez remarqué que quand les Bnei Israël ne veulent plus être Bnei Israël, on s'appelle les Kenaanim. Les Kenaanim. Je vous dirais une chose, vous savez ce que c'est que le cananéisme dans la société israélienne contemporaine? Non, je vous en parle. Ce sont ces. Il y a un paradoxe très profond, mais on n'échappe pas à son identité. Ce sont ces Israéliens du temps de la fondation de l'État et un peu avant, qui, prenant acte que les Juifs ne suivaient pas, ont voulu couper les liens avec le peuple juif de la diaspora et fonder un Israël cananéen, ça veut dire un Israël État du Moyen-Orient fédéré avec les autres États du Moyen-Orient. C'est la tendance cananéenne qui s'appelle les Hébreux. C'est un paradoxe. Par exemple, des petits problèmes d'État civil, des faits de coquetterie sociopolitique, c'est surtout chez des intellectuels, des artistes en particulier, un milieu à la fois d'extrême droite et gauchisant à la fois. Je ne sais pas comment dire, mais pour le moment, c'est devenu sûrement uniquement des chapelles littéraires. Ça a été résorbé à partir de la guerre des Six Jours où s'est dévoilée la solidarité entre le peuple juif et Israël. Le cananéisme a été devenu marginal. Et par exemple, ils vont à l'état civil et quand on leur demande pour la carte d'identité, il faut dire de quel peuple on fait partie, mais mettez-moi pas juif, mettez-moi hébreu. Okay? Et le bagage, le tribunal suprême, est obligé de faire des contorsions de pull pour leur dire, ah non, si tu es juif, tu ne peux pas être hébreu, alors c'est ça qu'il faudrait dire. Vous imaginez, c'est une histoire de fou. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est ceci, il faut bien le comprendre. Dans tout Israélien, même ceux qui sont les plus liés au peuple juif de la diaspora, que ça ne fait pas problème, nous sommes le même peuple, il y a une goutte de sang cananéen. Je veux dire, une petite tendance comme ça. Okay. Parce que partir du moment où on a retrouvé la terre, alors on se retrouve, et les autres sont atterrés. Bon. Et je veux dire, ce terme de Knaam est très important. Il est très important. C'est la terre de Knaam qui deviendra la terre d'Israël. Qui s'appellera la terre d'Israël, c'est des niveaux d'identité. Et ce que je veux dire, c'est que les Cananéens comme tels étaient des conquérants sur cette terre-là. Leur véritable terre, c'est les cieux. C'est-à-dire les descendants de Ham, c'est la situation éthiopienne. Maintenant, les Plishtim, les Palestiniens, ces conquérants venus de Crète, ça c'est encore une autre paire de manches. Je veux dire, c'est absolument pas conventionnel, c'est un autre terme, c'est pas exact. D'après les Palestiniens, les Arabes qui se disent être Palestiniens, c'est une branche des descendants d'Ismaël. C'est en réalité, je schématise énormément de choses là-dessus, c'est en réalité les Syriens du Sud. Notre véritable confiance, elle est avec la Russie, à travers la Syrie. Il y a une indication dans les commentaires de Tosfos que peut-être les héritiers de Canaan, c'est la Russie. Et le commentaire de Tosfos, je n'ai pas la référence exacte en tête, dit Moscova. Tosfos, lui étant l'école de Vachy. Et le Rav Zuckerman nous a une fois donné une indication, et disant ceci, la malédiction à Canaan était titrée Avadim, esclave. Et en latin, c'est le mot de slave. Je ne sais pas si vous voyez par où ça va. Hein. Or, il n'y a pas de doute que ce qu'on appelle le conflit israélo-arabe est en réalité une guerre de la Russie contre Israël, contre le peuple juif en général. D'ailleurs, c'est dit à l'ONU, mais c'est tellement dit qu'on ne veut pas le voir. Et que ce n'est pas par hasard que nous nous battons contre des armes russes. Nous-mêmes, ce sont des armes russes qui nous font la guerre. Et que ça passe par la Syrie. Parce que cette revendication-là, c'est celle de la Syrie au nom d'Ismaël. Et qu'il y ait cette alliance inconditionnelle entre Souria et Roussia.
C'est la mieux d'ailleurs.
D'accord. Mais tout ça, c'est des coïncidences. On revient à Judas Lévi. Très rapidement.
Donc, Canaan. Dans Israël, il y a Canaan. Il y a Keth et Keth et Canaan dans le même.
Oui. Vous vous rappelez d'ailleurs que la disqualification d'Ésaü par rapport à Jacob, c'est au moment précis où Ésaü prend femme chez les Cananéens. Vous vous rappelez de ça? C'est là qu'Isaac intervient et dit que ça passera par Jacob. Mais ce que je voulais ajouter en le reliant au livre de Ruth, c'est très important, c'est qu'à l'échelle individuelle, les sadiques des Cananéens ont été intégrés dans la lignée messianique, dans la lignée royale d'Israël. C'est bien clair. Le problème est beaucoup plus vaste. Et si vous voulez, le peuple qui est le support de cette contestation a changé. Il est évident que ce qui se dit aujourd'hui être les Palestiniens, et je vous rappelle, c'est vrai pour tous les juifs de ma génération, nous avons vécu l'histoire des Palestiniens en exil. C'était nous les Palestiniens en exil, les juifs en Palestine. Et seulement voilà, le peuple juif a laissé faire cette substitution d'identité 13 fois, hein, ce qui fait que tout est à l'envers. Et le véhicule de ce peuple a complètement changé. Mais il y a ce double embranchement, je ne sais pas comment on peut dire, cet embranchement de la contestation, que d'une certaine manière, les peuples christianisés ont réclamé cette terre, et d'une autre manière, les peuples islamisés la réclament. À travers l'islam et à travers la chrétienté, et ils prennent comme exemple une espèce de pseudo-Canaan, comme prétexte, une espèce de pseudo-Canaan qu'ils appellent les Palestiniens. Mais cette histoire, une fois que nous est racontée dans la Bible, c'est celle-là que nous vivons, et nous connaissons la suite et la fin. Comment y arriver, à quel prix faut-il payer, etc., c'est les péripéties. Mais le projet général de cette histoire, il est clair. Un jour, Ishmaël reconnaîtra qu'Isaac est chez lui à Hébron. Vous vous rappelez du texte d'enterrement d'Abraham, hein?
Oui.
Dans cette dimension-là, oui. C'est-à-dire le conflit des générations. Si vous voulez, c'est précisément la lignée humaine où les tolados ne passeront plus. Parce qu'il y a cette attitude qui consiste pour le fils de vouloir supprimer son père. Alors l'histoire, c'est du fait ça. C'est pourquoi je vous ai fait une petite indication à Freud. Hein? Absolument, ce n'est pas du tout schématique, c'est essentiel. Canaan, c'est la réhistoire du projet d'Aïanaï aussi. C'est, si vous voulez, l'impureté absolue. Dans cette définition par rapport à notre sujet, le fait de se satisfaire d'un moment transitoire dans l'histoire, c'est là que la mort s'installe, c'est là que l'impureté s'installe. L'inachevé se présentant comme parfait. Mais l'idée est claire. Pardon ? Pardon ? Ça, vous devriez exploiter, parce qu'il y a comment je fais. Donc, nous étions donc sur ce principe que, dans la descendance de Jacob, il y a apparition du Yinyan Enochi à l'échelle collective. Et c'est pourquoi cette terre est donnée en promesse de don à la descendance de Jacob, en particulier, c'était là que nous avions ouvert toute cette parenthèse. Mais au Tasha, à partir de ce moment-là, il trie la Yinyan Enochi. Le Yinyan Enochi commence chez Adhena, Lochalkim, Alayechidim. Car jusque-là, il ne concernait que des individus singuliers, particuliers, les Yechidim. Shochen Bekerev Kibbutz. Itril Shochen Bekerev Kibbutz. Le Inyan Eloki commence à être Shochen Shrina, à résider dans une société. Kibbutz, le sens originel ici, c'est le rassemblement en société. Kibbutz. La Eloka. Il dit à Albené Yaakov, Gambiotam in Israël. Et Dieu est providence. Il dit à, ça veut dire protéger, surveiller, veiller sur. Sur les enfants de Jacob, même étant en Égypte, les Afrotam ou les Arbotam ou le Gadel et Bené, pour les faire fructifier, multiplier et élever leurs enfants. Car Sherida, Lichetaïlam, de même qu'un homme fait grandir un arbre, chez Shorchoto, dont il sait que la racine est bonne, Hadj otsi operi bachel, jusqu'à ce que le fruit mûri apparaisse. Ici, il y a une comparaison qui est très dramatique. Imaginons un jardinier taillant son arbre et mondant cet arbre jusqu'à ce qu'effectivement un fruit peri bachel, un fruit mûr, puisse arriver. C'est notre histoire. Est-ce que c'est clair? Aït Azami Dia, Vekolato, Nishma Averse. Bédomé la péri à l'échelle, chez Minenu, Nita Aïlan, jusqu'à ce que le fruit mûr arrive à ressembler au premier fruit dont la graine avait donné cet arbre. Et nous retrouvons là le schéma que nous avons eu au premier cours lundi matin. Vous vous rappelez de cette coordonnées, je vais écrire un livre dans ce sens-là, de cette coordonnée du projet transcendant du Créateur. Okay. Et puis de ce fruit parfait, le premier homme avant la faute, si vous voulez, en schématisant, nous aurons, au cours de cet après-midi et dimanche matin, dans les cours, mes autres cours de texte, notre enseignement, c'est tombé une graine qui doit revenir à celui. Vous voyez, la différence avec personne, personne ne connaît que cette dimension. Et non, entre parenthèses, cela, c'était l'objet de notre discussion avec le père du fou, le père du puits, dans un autre problème, le père du puits hier soir. Et, vous voyez ce qu'il dit, jusqu'à ce que de l'arbre tout entier, les fruits qui sont portés sont tous au niveau de ce fruit dont la graine avait donné l'arbre. Et alors, toute cette histoire qui commence depuis Adam Arichon, jusqu'au temps messianique, et qui est l'histoire d'un élevage d'un arbre. Donc, gardons l'image un peu à la manière d'une image bergsonienne, et l'histoire comme jardinage. Et il s'agissait d'un jardin, d'ailleurs, vous vous rappelez. Retoni Lomar, et je veux dire, vous êtes déjà à la page 33, hein, en haut, et je veux dire, Daag, le gars de l'âme, a lâché de nous la Rotam, que ce jardinier, ce divin jardinier, a Daag, s'est préoccupé de les faire grandir jusqu'à ce qu'ils ressemblent à leurs ancêtres, Abraham, Israël et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, ou Yosef et Echad et à Joseph et ses frères. Gardez bien cette expression, à Joseph et ses frères. Et que Yosef, c'est l'émergence du quatrième niveau, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, du point de vue précisément de ce dont la Torah nous raconte concernant la relation entre Joseph et le problème de Galout Géoula. Quand Joseph naît, Jacob sait que c'est la fin de son exil. Et c'est Joseph qui annonce quand prendra fin l'exil d'Égypte. Vous vous rappelez de tous ces textes. Joseph, c'est-à-dire le premier-né capable de fraternité. ça nous en a étudié d'autre part, et c'est lui qui fait le tikkun de la faute de Caïn. Véapéli abachel babé Moshe, mais le fruit mûr, c'était Moïse. On y a fait allusion deux fois, une fois hier matin, une fois hier après-midi. Hein. L'identité de Moïse va nous apparaître comme modèle du Haïn Analoki réussi. Aaron ou Myriam, Aaron et Myriam, ou Baanachim que Betzalel. Et chez des hommes comme Betzalel, ça va faire plaisir aux artistes, des hommes comme Betzalel ou Aholiav, qui étaient les préposés à la construction du tabernacle, vous rappelez, ou Braché Amatot et les chefs des tribus, que chez Maskelim, comme par exemple les 70 anciens qui forment le Sanhedrin. C'est-à-dire ces hommes qui se sont trouvés aptes à une prophétie permanente et pas à des pointes de Inyana Eloki en moment d'extase, comme on dirait d'autre part, hein, mais dont l'identité est faite de cette capacité permanente d'être au niveau Inyana Eloki. Ou que Oshéa, comme je disais, Caleb, Zahour, Caleb, vous connaissez Josué et Caleb, Chour étant le fils d'Aaron, Sicha, le frère d'Aaron, des Rabbi, le fils ou le frère, le petit-fils d'Aaron, le neveu, bon, c'est de la famille qu'on fait. Et les Rabbi, Jonathan, et beaucoup en dehors d'eux. Baritaï, Nimseou, Bnei Israël, Koulam, Reoïm. En ce temps-là, les enfants d'Israël se sont trouvés tous, aptes. Les Haraot, Aoré, les Héraot. À l'éclairage de cette lumière divine, Betocham, en eux, ou Nidgalout, et au dévoilement, Hashgacha à Eloka Aleem, de la providence de Dieu. Alors c'est là, dans ce paragraphe qui vient maintenant, que je retrouve votre question, madame. Et maintenant, les échecs. Omnam, Hayou Benéem, et cependant, il y avait parmi eux, Gam Chotim, aussi des pécheurs. On les trouve dans cette ligne-là. Gam Chotim, c'est noué le cas, haïssant Dieu. Regardez, je trouve à Gidalé. Il y a aussi dans ce peuple des Chotim et c'est noué le cas. Alors, mais il n'y a pas de doute. C'est Gam Hen, que même eux, ces pécheurs haïssant Dieu, Ayush Goula, Mitrina Tédoua, participent de cette Goula d'une quelconque manière. En tant qu'ils sont liés à l'être collectif, ce point d'insertion de leur être, de méchant, dans l'être collectif d'Israël, ce point-là est sadique. Voilà, il faut réfléchir bien. Ça vous fera comprendre, par exemple, des Mahamarim, là j'ouvre une parenthèse quand même, parce que c'est une idée polémique. Je comprends des Mahamarim comme la Gemara qui dit qu'il suffit de faire 4 pas en Eretz Israël pour avoir le monde à venir. Un peu exagéré. Même elle, elle n'ose pas avoir un slogan pareil. Ça viendra peut-être. Voilà, il faut comprendre une chose. C'est que il y a, dans les niveaux de la Neshama, il y a en particulier les 2 niveaux inférieurs, qui s'appellent Nefesh et Ruach. Il y a le point d'insertion de l'équation individuelle de chaque personne au monde matériel et au problème de la jouissance du monde matériel. Et où ce néfèche peut être rachat. Mais il y a un point intérieur par lequel ce néfèche individuel est relié à la neshama collective d'Israël. Et ce point d'insertion de la neshama collective d'Israël, celui-là est sadique de la Sgoula de Inyana Eloki. Si vous voulez, il s'agirait d'hommes qui, à l'échelle individuelle, ont l'indice Israël à l'indice négatif, et plus ils sont chahim, et plus cet indice est grand. Il suffit qu'il fasse tout voir pour qu'il redevienne positif, c'est très grand. C'est-à-dire qu'on a ici un concept qu'il faut bien comprendre. Un rachat d'Israël, c'est un rachat d'Israël. Et plus il est grand rachat, et plus il peut devenir un grand chassis. Ou si vous voulez, à la limite, je dirais une phrase brutale, même un sale juif, son juif, en tant qu'il existe, un juif sale, et alors, il y a des juifs enrhumés, il y a des juifs de sale. Ouais, il faudrait qu'on arrive à comprendre ça. Bon, il faut voir ce qu'il y avait dans sa généalogie, disons. c'est notre problème. Mais...
Ouais.
Vous savez, des fois, on connaît vraiment la carte d'identité de la famille, on a vu ça. Je ne sais pas si c'est ça pour Haïti, mais je dis ça. Bon. Peut-être pas tous, ça dépend lesquels, mais il y a là un thème. Vous savez, je ne sais pas si vous savez peut-être que Kadhafi est juif. Non, non, c'est sûr. Puisque ça m'est... Ça explique beaucoup de choses. Ça, on n'a pas d'assurance. Bon. Et voilà, non. Alors ici, il y a un problème qu'il faut bien élucider. Et j'ai en tête, je dirais, ça me le rappellera peut-être demain matin, avant le cours. Attendez, je vais faire une... On va y arriver. Oui, on arrive, ça. Écoutez, on va y arriver dans les exemples que dont Judas l'a dit. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Mais il y a un passage de Rav Kook dans le livre Orot, où le Rav va beaucoup plus loin. Je voudrais analyser ces deux différences de niveau de la Nechama individuelle, le Nefesh et le Ruach. Le Ruach, c'est disons le niveau de la Nechama individuelle qui est relié à la vie spirituelle. Le Nefesh étant relié à la vie matérielle, à la vie des actes extérieurs. Le Ruach étant relié, si vous voulez, plus à l'expérience intérieure de la vie spirituelle. Le Rav Kook dit ceci, mais je voudrais vous le citer dans le texte demain. J'espère qu'il y a un livre dans la bibliothèque. Et donc, quelqu'un qui serait là au cours de cet après-midi me le rappelle que je puisse demander le livre. Et il dit que les pauvres Israël, les pécheurs d'Israël, mais qui s'occupent des affaires de la communauté, sont supérieurs aux tzadikim d'Israël qui ne s'occupent pas des affaires de la communauté. Je ne sais pas si vous voyez, du coup ça va. Quand le Rav Kook a enseigné ça il y a une cinquantaine d'années, il s'est fait excommunier par Mea Shearim. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient. Mais je voudrais demain, c'est dommage de citer ça de mémoire, vous analyser le texte de Rav Kook, montrer qu'il y a une insertion, un briquement entre l'équation individuelle, strictement individuelle, de la péripétie transitoire de ce que chacun est, chaque fois qu'il est chacun, individuellement. Qui peut être à charge, mais l'insertion à l'identité collective d'Israël, qui elle reste stabilisée irréversiblement, et à l'indice Ségoula, fût-ce à l'échelle négative. J'avais ici une image mathématique en tête, vous avez des équations qui ont deux racines, une positive et une négative, mais l'équation négative est authentiquement racine de l'équation. Hein? Solution de. Oui, vous avez compris ça.
Hein?
C'est beau, hein, par exemple. Ça veut dire, vous savez, à la, il ne faut pas devenir ce qu'on appelle chassid choté. À partir du moment où on a appris ça, de dire, bon, alors un gangster juif a le droit à monter à la Torah. Comme ça arrive souvent dans les synagogues, d'ailleurs. Hein, parce qu'à qui on en fait. À ceux qui ont fait des affaires. Et non, il faut garder la lucidité et la vigilance. C'est-à-dire il faut subjuguer, transfigurer ce côté mauvais, du méchant. Seulement, en tant qu'il est membre d'Israël, qui participe d'une histoire collective, qui ne fait pas de différence à ce niveau-là entre les tzadikim et les rechaim. Parce que ce n'est pas une effectuation au niveau de la vertu des actes, mais c'est une effectuation au niveau de la manière d'être, ce qui est très différent. Et c'est un concept, encore une fois, que nous devons au Rav Kook, et que nous arrivons très difficilement à intégrer dans la conceptualisation contemporaine. Ça viendra avec le temps. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes privilégié. Il y a 30 ans, eh bien, les prolégomènes d'un vocabulaire qui maintenant est intégré, Eh bien, il a fallu quand même le formuler, c'est ce que nous devons à notre maître Jacob Gordin, qui lui a commencé à rendre, restituer l'évidence de ces choses-là, au point qu'un père du cul peut en parler, comme si ça va de soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, cette notion-là est encore à intégrer. Il y a deux catégories du mérite. Une au niveau des actes, et au niveau des actes, il peut y avoir des mérites totales. Et une au niveau de l'être. Et là, le mérite est celui de la Ségoula. Parce qu'après tout, c'est pas n'importe qui n'est n'importe qui. C'est pas n'importe quel Neshama qui vient n'importe qui. Bon. Alors, bien entendu, c'est pas parce que quelqu'un va vous dire, carte d'identité, je suis juif, ça y est, c'est un sadique, au niveau des actes, pas du tout. Et ces actes, on va les juger, et le tikkun, on va le faire, fût-ce à la prison à perpétuité. Mais l'être, c'est autre chose. Et je crois qu'il faut arriver, je me rejoins au début du cours, à retrouver cette donnée chez, par rapport à tous les hommes. Et pas seulement de niveau en niveau, par rapport à sa propre convivialité. Je ne sais pas comment. Je vous voudrais, si vous voulez une parenthèse, pour vous raconter ce que dit le Midrash, alors ici nous avons un enseignement du Rav Kook, pourquoi on ne lit pas le Hallel complet à Pessah. Vous vous rappelez de cela? Le Midrash raconte à cause de la mort des premiers-nés Jésus. Et pourtant, c'est ceux-là qui nous ont fait si de mal, tant de mal, etc. Le Midrash raconte qu'au moment du passage de la mer Rouge, quand les Hébreux, sous la direction de Moïse et de Myriam, ont chanté le cantique de la mer, les anges dans le ciel ont voulu chanter aussi. Et Dieu leur a dit, taisez-vous, mes créatures sont perdues dans l'eau, et vous chantez, et pourquoi il n'a pas fait taire les Hébreux? Et alors, Rav Kook a expliqué, en bas, c'était devenu mauvais, il faut annuler en bas. Mais en haut, à la racine de l'identité de ce que Dieu a créé, touche pas. Vous avez compris le problème? Et je vais peut-être vous étonner, ça a été enseigné par le Rav Kook, même pour Amalek. Parce que le verset dit, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Et dit au-dessus, pas. C'est clair? Vous voyez qu'il faut toujours lire ce qu'il y a d'écrit, comme c'est écrit. Il dit, Timchè, Zéré, Amalek, il tahat Hashamaïm. Et en dessous. Dessus, touche pas, tu sais pas ce qu'il y a là-haut. J'ai compris. C'est-à-dire que, bien sûr, au niveau de l'effectuation des actes en bas, faut allumer ça. C'est mauvais. Mais la racine de cela, et dès qu'il a fait, il sait ce qu'il y a là-haut. Alors, touche pas là-haut, mais en bas, oui. Oui, on ne trouvera pas ces migrations chez nos ennemis. Hein? Parce que c'est surtout là-haut qui va nous assassiner. Mais c'est des migrations juives, c'est la sensibilité juive. C'est la Torah. Mais c'est très parallèle à ce que nous étudions actuellement. Dans cette phrase, c'est un pocher d'Israël. Mais qui est d'Israël et les Israël. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Je me rappelle que M. Gordin nous avait parlé de ça à propos d'un gangster juif du temps juste après l'occupation qui s'appelait Juanovici, ou machin, je vous Joseph. Juanovici. Oui. Et il nous avait dit ça très très clairement, il faut le sauver, c'est un juif. Bon, moi je veux bien. Aujourd'hui on a le même problème en Israël avec Juanovici. Enfin, toute proportion gardée. Juanovici était mieux. Mais bon, voilà à peu près donc. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et encore une fois, je n'ai pas encore dit, mais je le dis maintenant. Faites attention, il ne s'agit pas du tout de chauvinisme, de racisme, de... Ils se tiennent entre eux, parce que c'est pas vrai, les Juifs ne se tiennent pas entre eux. On les met dans le même sac, toute chose. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à se tenir entre eux. Mais, là, il y a une calomnie, hein. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que se découvre là qu'il y a un cas particulier du peuple juif, du peuple hébreu, il y en a aussi, c'est un privilège collectif de la nation comme telle et pas de tel ou tel individu, de façon singulière, ce qui fonde les paganismes. Quand on met en excellence un individu sous forme de héros exemplaire, c'est qui devient le mythe d'une religion considérée. Ce que jamais Israël n'a fait pour Moïse, ni pour Abraham. Vous comprenez le problème. Et cela, dans notre dialogue avec les chrétiens, c'est ce qu'il y a de plus difficile à leur faire comprendre. Qu'ils ont récapitulé dans une figure mythique ce que la Torah dit de la collectivité d'Israël. Ce que j'aurais expliqué jeudi soir, c'est centralement cela. C'est de quoi parle la théologie chrétienne quand elle parle de l'incarnation. C'est sous forme de maquette non hébraïque de ce dont Judas Lévi parle lorsqu'il parle du Inyana Elohim. Seulement, les mots prennent un tout autre sens. Ils prennent un sens d'un registre originellement païen. Mais où est l'impossibilité du dialogue? C'est qu'on dit d'un individu ce que la Torah dit d'une nation. Et on fait vivre sous forme mythique une histoire qu'on appelle la passion et qui est la forme symboliquement racontée de l'histoire d'Israël. Et on nous fait vivre cette histoire-là inversement. Vous avez compris ce qui s'est passé au fond pendant 2000 ans de la civilisation romaine. Rome a fait vivre au peuple juif l'histoire qu'elle se raconte dans la passion. Ils commencent à en être conscients, vous avez absolument raison. On les aide un peu d'ailleurs, je vous dis. Mais je ne sais pas si on aura le temps que cette évidence soit suffisante avant des catastrophes qui risquent de se préparer. Bon, mais je n'ai rien dit, je ne veux pas vous dire des cauchemars déjà aujourd'hui. On regarde ça pour dimanche matin. Mais il y a ponctuellement, vous avez absolument raison, et probablement depuis la soirée 67, une prise de conscience de cela, 68, pardon, une prise de conscience de cela dans le monde chrétien, mais je ne sais pas si déjà le temps est venu qu'il y ait courage de lucidité suffisant pour arriver jusque-là. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, quelle était l'intention des rédacteurs des évangiles lorsqu'ils ont raconté cette histoire? Je dis l'intention, parce que cette donnée-là, elle a souvent été entendue à travers les siècles. C'est qu'au fond, la théologie chrétienne dit du Christ ce que la Torah dit d'Israël, ce que la vie dit d'Israël. Ce que j'ajoute, c'est que c'est intentionnellement que les fondateurs du christianisme ont raconté cette histoire comme ça. Est-ce que c'est clair? Et je suis prêt à le démontrer en exégèse sur les évangiles. Ça, c'est notre problème. C'est l'objet de la conférence de jeudi. En tout cas, les évangélistes eux-mêmes, et ils ont tous été les fondateurs de cette communauté, disons, et ont tous été des juifs, et ils ont raconté l'histoire d'une messianité telle qu'ils ont proposée aux goïm, et les goïm y ont cru.
Ils n'ont pu pas croire.
Oui, alors on se posera aussi cette question. Pourquoi ça a pris? Sur certains problèmes, mais pas sur la christologie. Sur la christologie, oui, ils étaient d'accord. Sur le problème de l'importance de la pratique de la loi, il y avait Marloquet. Je vous dirai très rapidement, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler jeudi soir, si un jour vous étudiez les évangiles de ce point de vue-là, vous verrez qu'il y a quatre récits différents qui s'entremêlent et c'est rédigé de main de maître. Il faut faire Pirouche Rashi là-dessus pour s'en sortir. Okay. Il y a d'abord le récit de l'histoire de Jean-Baptiste, qui est prise comme modèle. Ensuite, il y a l'histoire d'un certain Jésus. Ensuite, il y a l'histoire d'un certain Christ. Ensuite, il y a une quatrième histoire de que l'un c'est l'autre, d'un certain Jésus-Christ. Et ce sont quatre histoires parallèles, avec le parallèle des femmes aussi. Elles sont dans les quatre niveaux, que ce soit Marie-Madeleine ou une autre, ça dépend du niveau. Bon. Et les rédacteurs des évangiles savent très bien le message qu'ils veulent transmettre. Nous allons vous raconter une histoire, qui est l'histoire du peuple d'Israël, salvatrice de l'humanité. Et ils l'ont présentée au goïm de ce temps, sous la forme d'un mythe de religion à sauveur, parce qu'il s'adressait au goïm de ce temps. Je récapitule un petit peu, un petit peu de réponse à votre question. Les rabbins ont interdit cela. Ils disent non, c'est pas cachet. Alors on a dit, l'empêcheur de tourner en rond s'appelle Judas. Celui qui reste fidèle à la sainteté messianique de Judas, opposé à celle d'un fils de Joseph, qui deviendrait égyptien, qui deviendrait romain. Alors que Joseph de l'histoire n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi on lui donne, dans le mythe, comme père terrestre un certain Joseph,
et comme ennemi intime un certain Judas. Et oui, les choses sont aveuglément simples. Quel était ce projet? Pendant quelque temps, et vous le savez aussi, pendant quelque temps, les pharisiens ont eu un peu de complaisance avec cette secte messianique chassidique de l'époque. Okay. Et puis, quand il y a eu trahison nationale, qu'on a pris parti pour Rome contre Jérusalem, l'excommunication a été décidée, les judéo-chrétiens ne sont plus juifs. Parce que le chine, si j'ose dire, s'est fait au niveau national, politique, et non pas au niveau de ces midrashim qu'on peut aujourd'hui encore leur expliquer. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et voilà donc le fond du problème. Vous me tentez de la tentation. Alors, je vais quand même vous dire une petite parenthèse. Après tout, on est dans le sujet, mais promettons-nous qu'on finit le paragraphe quand même. On est dans 5 minutes après, au moins qu'on le lit, pour le reprendre demain. Voilà. Et Rome triomphe. On a diagnostiqué que pour tout le temps de civilisation à venir, c'est le principe de la civilisation romaine qui allait s'imposer au monde. Qu'Ésaü avait vaincu militairement, politiquement, Jacob. Alors, une partie des Juifs, travaillés par la messianité, ont voulu réaliser une stratégie de messianité à la manière de Jean. Rentrer dans l'Égypte et du devant de l'Égypte, judaïser l'Égypte. Il s'agissait de Rome. C'était la tentative de Joseph d'Égypte. Mais quand il a diagnostiqué qu'elle mène à l'échec, il a prévenu ses frères, attention, le moment va venir et vous ramènerez mes ossements qu'on n'en fasse pas une idée. C'est clair, bien que récapitulé. Et tout le récit historique de la Torah, c'est le récit de l'histoire de la tentative de Joseph pour montrer qu'elle mène à l'échec. Et c'est-à-dire, tout le récit de la Torah, c'est le récit de l'histoire de Judas et ses frères contre Joseph et ses frères. Vous comprenez la symbolique? Et c'est un récit pour nous montrer que le christianisme, opposé au christianisme, à l'avance. Okay. Qu'est-ce que viennent faire les judéo-chrétiens? Ils disent, on va refaire la tentative de Joseph. On va aller dans Rome. Et on va judaïser Rome de l'intérieur. Ils se sont fait romaniser. C'est un peu clair ce... Et qu'est-ce qu'ont fait ces fondateurs du christianisme? Ils sont allés à Rome. Ils ont planté une croix. Ils ont dessiné là-dessus le peuple juif, en effigie, et ils ont dit au monde entier à genoux, adorez ce que vous avez fait. Et le monde entier s'est mis à genoux, il adore ce qu'il a fait. Il fallait être juif pour faire ça. Et alors, il y a une indication, en tout cas dans saint Paul, où il indique à la fin des titres aux Romains, vous verrez bien la fin des temps, qui est Israël. Et que les promesses et l'alliance et les patriarches et les prophètes sont sans repentance. Et qu'en fin de compte, il se dévoile que c'est les Juifs qui sont Israël. C'est-à-dire que saint Paul aussi a plus ou moins compris cette stratégie de rentrer dedans. Mais les rabbins, dits pharisiens, sont restés fidèles à la messianité de Judas et ont refusé cela. Et cela a échoué. Parce que le monde entier n'a pas été judaïsé par le Christ. Pas du tout. Bien que c'était le projet. Voilà, je sais pas, je vous ai mis ça en 4 phrases, c'était suffisamment clair, je ne sais pas, mais on pourrait s'en expliquer beaucoup plus en détail.
Il y a quand même une phrase où le dessin est clairement avoué, c'est quand Jésus dit à la Samaritaine, le salut est arrivé.
Exactement. Oui, absolument. Écoutez, nous sommes sur des régimes différents à la fois. Si vous entendez bien ce que j'essaye de vous dire sans le dire, tout en le disant quand même, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un personnage historique qui aurait existé. Il s'agit d'une typologie. Vous savez, tous les historiens qui parlent de la vie de Jésus vous font une espèce d'analyse, chacun avec sa compétence, de ce que pourrait être en ce temps-là la vie d'un juif exemplaire. Est-ce que c'est une preuve de l'existence historique? C'est tout simplement une description littéraire de ce que peut être la vie d'un juif exemplaire en ce temps-là. C'est les chrétiens qui disent donc qu'il a existé. Parce qu'eux croient en un personnage, alors que la thématique de l'enseignement des évangiles, c'est l'identité d'Israël, présentée comme figure mystique,
médiatrice et salvatrice pour l'égoïsme. Est-ce que c'est clair, si vous voulez ? Ce que je vous ajoute, si vous voulez, c'est ce fait précis. C'est que c'est intentionnellement que les rédacteurs des évangiles ont décidé cela. Et ça se lit dans leur texte, dès qu'on... Ça, je le dois au père juif, dont tu te rappelles. Dès qu'on arrive, mais il y a des juifs qui peuvent le faire, à remettre les unités de lecture grecques en araméen et de les comprendre en hébreu. Il y a les clés sur les télés. Un message codé, mais dont les clés sont très simples. En particulier, la généalogie de Matthieu, c'est tellement évident.
Pourquoi le père
juif ? Parce que le père juif, ça, c'était un homme colossal. C'était un jésuite qui a étudié le Targum et les Midrashim. Et pour essayer de retrouver le souffle de la Mishnah et de l'identité judéenne, tout à fait palestinienne d'ailleurs. Et beaucoup de ses disciples continuent à dire les Palestiniens en laissant l'ambiguïté, c'est-à-dire les Arabes, en voulant parler des Judéens. Je ne sais pas si vous comprenez la malignité de cela. Il a mis en évidence ce qu'il appelait des dominos, des unités de lecture. Il avait appris l'araméen et l'hébreu d'ailleurs, et il enseignait à la rue Serpente au musée d'anthropologie. Et je me souviens, juste après la guerre, un petit étudiant arrivant d'Algérie, je suis tombé sur un prospectus. Ensuite, j'ai connu une de ses élèves qui a été professeure à Orsay, Mademoiselle Talentard. Elle avait droit à son véhicule, madame. Je n'ai pas supporté plus de trois cours, mais j'ai étudié ses livres. C'était un anti-juif dans la Occupe. Il passait son temps à insulter les juifs. Et c'était insupportable. Vous vous rappelez de ça? Alors un jour, je suis allé voir, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, j'aime beaucoup votre enseignement, mais je ne supporte pas. Alors excusez-moi, je ne viens plus. Bon. Mais il n'en reste pas moins que c'était un très grand homme. T'sais. Il reportait sur les juifs un complexe de persécution qu'il avait chez les juifs. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez le transfert. Okay. Et alors, c'était un grand spécialiste d'ailleurs de ces problèmes-là. Il a fait une tentative de réintégration du phrasé, de la rythmique, de la gestualisation de l'araméen, de la Mishnah dans les textes chrétiens. Il n'y a pas réussi d'ailleurs. Bon. Mais ces livres restent écrits, ce sont de très grandes choses.
Il n'a pas
réussi
du tout, mais il a quand même réussi
à... Non, je dis qu'il n'a pas réussi à intégrer cela dans la formulation chrétienne. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a un auteur dans le monde juif qui retrouve ça à un autre niveau et à sa manière, et qui lui réussit à introduire ça dans le recueil. C'est M. Méchoumi.
C'est qui?
Henri Méchoumi. Mais d'une toute autre manière, l'anthropologie du geste du père Jou, ça reste le père Jou. Et c'était le paysan de la Sarthe. Vous vous rappelez de qui ça? Sarthe. Oui, enfin, soit de Sarthe. Et alors, pourquoi je vous parlais de tout ça? Eh oui, alors, ça m'a donné l'idée d'étudier ces dominos dans le texte des évangiles. Il appelait ça des dominos, des unités de lecture. Et de me rendre compte que de régis en régis, la signification avait changé de l'hébreu à l'araméen, au grec, au latin, jusqu'à devenir les concepts de la théologie chrétienne qui sont devenus radicalement étrangers à la signification originelle des mêmes équations de lecture en hébreu, et surtout en araméen. En vous donnant quelques exemples très 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 rapides, comment la notion de fils de Dieu, qu'on a étudié hier et avant-hier, est devenue Dieu le Fils. Ça a l'air simple. C'est un changement théologique radical. Fils de Dieu, ça veut dire la créature authentique. Dieu le Fils, c'est du paganisme, c'est une idole. Vous comprenez le problème? Ou bien l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh, qui devient le Saint-Esprit. Si vous me permettez une blague, on est entre nous. Il y a une grande différence chez nous. Le Ruach HaKodesh fait des livres. Pour les chrétiens, il fait des enfants. Rien à voir. Okay. C'est un autre monde. Et alors, comment on pouvait dire que la source est juive? Il y a eu cette traduction de Régis à l'envers 13 fois, dans le passage de langue à langue. Alors, plus profondément, il m'est apparu très rapidement. C'était un message que les évangélistes voulaient donner aux goïms dans leur univers mental et spirituel, et que finalement les chrétiens eux-mêmes, enfin les responsables de l'Église eux-mêmes, ont oublié les attendus du complot. Enfin, c'était un complot. Des juifs qui ont voulu vaincre Rome de l'intérieur, mais ils se sont fait romaniser tout de suite. Ça n'a pas pris longtemps, Constantin s'était fait. Vous avez compris le problème ? Il n'y a que chez les chrétiens orthodoxes que des traces d'une mémoire de ces choses-là d'avant sont restées simples. Les catholiques ont tout perdu et les protestants ne l'ont jamais connu. Mais chez les orthodoxes, il y a un peu quelque chose qui parfum, qui se rappelle de quelque chose.